When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
On y est, le podcast tant attendu est arrivé, vous écoutez Dunk Hebdo, c'est Adrien qui vous parle. Et pour ce 211e épisode, on va enfin retrouver l'actu de la NBA. On a appris cette semaine que la Grande Ligue est bientôt de retour. Alors, avant de rentrer dans tous les détails, bien sûr, discuter de tout ça, je ne suis pas tout seul et on commence donc avec un retour dans le podcast, puisqu'il n'est pas encore de retour en France. Il est toujours au pays dont les fans des boys bands et girls bands enchaînent en ce moment les tours de force sur les réseaux sociaux. Je parle bien sûr donc de K-pop, de Corée et de Ben qui est là. Comment ça va, Ben ?
Excellente intro, Adrien. Tu continues de nous ravir toutes les semaines avec tes superbes intros. Ça va très très bien.
Eh ben ça me fait plaisir, on n'a pas fini. Deuxième intervenant aujourd'hui qui est moins loin, lui il est encore dans notre pays où les boys bands et les girls bands se sont arrêtés avec grosso modo les L5, les Link Up de Matt Pokora ou encore les Watford. C'est donc la France qui est représentée par Tom. Comment ça va, Tom?
Très bien, très bien. J'aime bien le fait que tu évites de mentionner les BTS.
Oui, bah pour l'instant
on dit BTS, hein, mais je tiens juste à préciser. Hein, mais...
Je suis français,
exactement.
Monsieur.
Le BTS est un diplôme. Et enfin, on est quatre, vous avez entendu un petit rire en fond, on est quatre aujourd'hui. Et on termine avec donc celui qui a connu le début et la fin des boys bands en France. La preuve, c'est que si je lui dis Abel, Philippe et Franck, il sait très bien de qui je parle. Et c'est donc Ilias. Comment ça va, Ilias ?
Ça va très bien, les gars. Tu parlais évidemment des 2B3, les fameux.
Exactement. Exact.
Les 2B2 maintenant.
Ouais. Exact. Ça va très bien, les gars.
Yes, ravi d'être avec vous. On va assez parler de musique et de girls band, boys bands. On est quatre aujourd'hui pour faire le point sur cette fin de saison NBA 2019-2020 qui a été annoncée. Elle est annoncée donc pour cet été, dans quelques semaines. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Avant de vous faire réagir, je vais encore un peu monopoliser la parole pour faire un résumé. Je vais essayer d'être le plus clair possible sur la décision donc qui a été prise entre la NBA, les équipes et les joueurs. 22 équipes concernées, je vous donnerai la liste peut-être un peu plus tard, mais on va commencer par les détails, les dates. 30 juin, un training camp qui va avoir lieu pour la fin de saison. 7 juillet, les 22 équipes concernées vont à Orlando où aura lieu donc cette fin de saison. Et à partir du 31 juillet, on aura cette fin de saison avec 8 matchs de saison régulière par équipe. Ensuite, à l'issue de ces 8 matchs, éventuellement un tour préliminaire entre les 8e et 9e de chaque conférence s'il y a une différence de moins de 4 matchs. Alors c'est là que ça se complexifie un petit peu, mais bon voilà, un petit tour préliminaire au meilleur des 2 matchs entre les 8e et 9e. Et ensuite, on aura comme d'habitude 8 équipes par conférence et on pourra faire des playoffs classiques au meilleur des 7 manches. Alors les équipes concernées, 9 équipes de l'Est: Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philly, Brooklyn, Orlando et Washington. Et plus d'équipes, 13 équipes à l'ouest avec les Lakers, les Clippers, Denver, Houston, Utah, OKC, Dallas, Memphis, Portland, New Orleans, San Antonio, Sacramento et Phoenix. Voilà, donc j'espère que c'est à peu près clair. C'est un programme qui a été approuvé donc cette semaine par toutes les équipes sauf une. Il y a Portland qui a voté contre, on y reviendra peut-être. Il y avait plusieurs scénarios évidemment qui étaient sur la table, mais donc c'est celui ici auquel on aura droit. Et je vais me tourner vers toi, Ben, pour commencer. Donc on s'en doutait, la NBA voulait aller au bout de sa saison, reprendre malgré le contexte qu'on connaît. Toi, quelle est ta première réaction à l'annonce de cette formule? Pas surprise, j'imagine, évidemment, on s'inscrit dans une logique de reprise comme dans beaucoup de secteurs économiques finalement.
Oui, non, pas vraiment surpris parce qu'on parlait d'une reprise depuis pas mal de temps. On avait ces rumeurs qui arrivaient par rapport à une reprise du côté de Disney. Moi, en vrai, pour moi, quand j'ai vu la reprise et le plan, il y a quatre choses, on va dire, qui m'ont marqué. Alors, c'est des points sur lesquels on va beaucoup discuter, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Mais je pense que le plus important, c'est le poids des annonceurs et plus globalement la question monétaire et enfin tout simplement de l'argent, parce qu'on comprend bien quand on va rentrer dans les détails du plan que l'argent a énormément pesé. Enfin, on me fera pas dire que ramener 22 équipes c'est pas surtout pour ramener le plus d'équipes possible. Je pense aussi l'obsession de la NBA de couronner un champion entre guillemets normal. J'entends par là que on peut s'étonner, ça rejoint mon troisième point, c'est le poids des traditions. Je pense on peut s'étonner que dans le contexte actuel on n'ait pas pris la chance d'avoir un contexte extrêmement particulier, des équipes qui vont jouer dans une bulle au même endroit, etc., pour un peu je sais pas secouer le cocotier, trouver quelque chose de nouveau à la place, à part si on en met de côté ce petit truc de tour préliminaire pour 8-9. En gros, on a un schéma de play-off classique. Et puis alors ça c'est un petit peu un de mes combats, mais je trouve qu'on parle très peu du... Il y a quand même un énorme conflit d'intérêts autour de la relation de Walt Disney Company et de la NBA dans cette histoire-là quand même qui est... Enfin bref, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, mais pour moi, c'est les quatre choses qui m'ont marqué en tout cas.
Très bien, Tom, on t'a entendu, je vais te lancer aussi. Toi aussi, est-ce que tu suis l'avis de Ben ou est-ce que, je sais pas, toi, ça te satisfait un peu plus ce format ?
Enfin, moi, je vais dire que je suis un peu étonné puisque, enfin, dans les tout premiers communiqués, Adam Silver, il avait dit qu'il allait mettre la santé des joueurs, avant tout, enfin, en premier plan, quoi. Que, en gros, que la NBA ne reprendrait pas s'ils étaient pas sûrs d'avoir quelque chose de safe, quoi. Et de sûr. Et en fait, là, on se rend compte que, t'as la logique monétaire et la logique économique, hein. Faut pas oublier que, voilà, Adam Silver, il a la tête d'une entreprise et il doit faire du profit. Donc, et au moins limiter les pertes, quoi. Surtout dans cette période-là. Et, comme Ben l'a dit, hein, on voit très bien que ce retour de la NBA est avant tout, je pense, une problématique financière et le fait de devoir remplir un peu les caisses pour les joueurs et les annonceurs, quoi.
Oui, donc c'est une logique économique avec quelques risques, puisque donc on l'a dit, 22 équipes, plus les staffs, éventuellement les entourages, on y reviendra peut-être, il y a des questions logistiques dont on pourra parler après, mais ça peut amener quand même, c'est quand même beaucoup de monde au même endroit, même si Disneyland c'est grand quand même, hein, c'est la taille d'une petite ville, il y a de la place à faire. Est-ce que toi, ce côté sanitaire, Elias, il t'inquiète un peu ou pas ?
Alors, pas tant que ça, mais en fait, moi, c'est surtout... la surprise de cette reprise en fait, mais qui au final n'en est pas vraiment une, parce que disons que là où la NBA a pour habitude d'être très puritaine et moralisatrice, il faut se rappeler quand même à travers certains épisodes qui remontent pas à si loin, à quelques mois, que dès l'instant où l'enjeu financier commence à devenir véritablement critique et atteint un seuil beaucoup trop important, on va dire que elle est capable de faire un pas en arrière pour, on va dire, revoir un petit peu sa morale. Ça a été un petit peu le cas avec le cas de Daryl Morey, de ses tweets sur la Chine et sa manière de gouverner. Et il en est de même un petit peu du coup aussi avec le côté sanitaire lié à ce Covid, parce que moi j'étais un petit peu de l'avis de Ben, avec qui on avait échangé en tout début de confinement, qui était de se dire que la saison ne reprendrait pas en fait. Et je jusqu'à l'annonce de la reprise, j'étais bon, il y a pas vraiment de fumée sans feu. On sentait que quelque chose se tramait et que ça allait reprendre. Mais je reste malgré tout surpris de cette reprise, parce qu'au final, le risque zéro n'existe pas.
Oui, et on a donc une reprise avec un format, comme disait Ben, je vais reprendre un peu ce point-là, qui est finalement sur un format classique. On aura des play-offs plus classiques. Il y avait plusieurs choses qui avaient été discutées. On avait entendu plusieurs rumeurs avec des formats peut-être 1-16. Moi je vous le disais un tout petit peu en off au début, moi je suis peut-être un peu déçu d'un format, alors si on met du côté l'aspect donc impératif économique qui fait qu'on est obligé de reprendre, c'était une occasion peut-être de faire plus de tests sur les différentes réformes dont on parle pour la NBA ces derniers mois, ces dernières années même. On est quand même sur un format très classique, il y avait le format 1-16 qui avait été peut-être évoqué. Donc on part pas là-dessus, on part sur quelque chose, tout simplement, 8 équipes d'un côté, 8 équipes de l'autre, mais avec quand même un petit forcing peut-être pour que certaines équipes puissent atteindre les playoffs. Évidemment, on entend certains bruits sur Zion, mais il n'y a pas que Zion. Donc il n'y avait que Portland qui a voté contre cette reprise. Alors peut-être pour suivre Lillard qui avait dit qu'il ne jouerait pas s'il n'y avait pas d'enjeu. Bon, il y a un enjeu manifestement. Est-ce que cet enjeu, est-ce qu'il est bien foutu ? Est-ce que Ben, toi, est-ce que cet enjeu, tu penses qu'il y aura un intérêt quand même sur ces matchs-là, quoi ?
Alors juste pour revenir deux secondes sur ce qu'a pu dire, je fais comme, je suis pas présentateur,
vas-y,
je fais comme les gens dans les émissions de télé qui reviennent sur question d'avance, c'est insupportable. C'est très juste ce qu'a dit Ilias de revenir sur le cas Hong Kong, c'est il y a moins de 12 mois en fait. Donc la NBA a déjà subi perte plusieurs centaines de millions de dollars sur un tweet de Daryl Morey qui est probablement le tweet le plus cher de l'histoire. Et tu peux pas, enfin c'est quand même deux pertes énormes qu'on chiffre en, enfin bref, on en reviendra peut-être dans les chiffres plus tard, mais c'est un élément qu'il fallait noter, ça faisait quand même deux grosses pertes et c'est pour, ça peut expliquer le retour. Par rapport au format et notamment à ce match 8-9 potentiel, alors je suis totalement d'accord avec toi Adrien, je trouve que moi je suis persuadé que la NBA a pris conscience que c'était cette année à être dans les livres d'histoire allait être vu comme anormal. On a donc fait le maximum pour qu'elle soit le plus normale possible. C'est-à-dire qu'en gros, les gars, si on, encore une fois, on met de côté ce 8-9, c'est une saison tout à fait normale. On joue des matchs de saison régulière. Certes, il y en aura quelques-uns en moins. Meilleur des 7, en fait. Enfin, genre, si tu t'arrêtes comme ça, c'est une saison tout à fait normale. Et moi, je trouve vraiment que le 8-9, ça m'inspire pas vraiment. Alors déjà, parce que le 8-9 à l'Est va être indigeste, mais ça, c'est pas très surprenant. Le 8-9 à l'Ouest, moi, je suis désolé, les Grizzlies avaient 3 matchs et demi d'avance. Je trouve que c'était quand même... Alors certes, il y avait des fins de calendrier différentes selon les équipes, mais c'était quand même un avantage substantiel, et ils méritaient peut-être d'être qualifiés pour les playoffs normalement, en fait, sans passer par cette phase-là qu'on leur impose. Puis oui, bien sûr, enfin on a quand même un forcing... On ne me sortira pas de l'idée, et beaucoup d'autres spécialistes l'ont dit. Si cette équipe en 8, c'est pas les Grizzlies, mais c'est peut-être une équipe un petit peu plus flashy, je suis pas sûr qu'on impose ça. Donc on a voulu tester quelque chose, mais ouais, c'est assez déçu de ça. Après, on connaît mon passif, je veux tout exploser en NBA, mais je suis déçu que ça soit la seule chose qu'on garde, quoi.
Après, bon, il y a la volonté de l'NBA, puis aussi la volonté des équipes. Peut-être qu'il y en a certaines qui peuvent bénéficier d'être de retour dans ce format.
Bah, par rapport à ça, d'ailleurs, c'était très intéressant de voir que c'est Matt Moore sur Action Network, un journaliste NBA, qui expliquait que quand tu parles aux dirigeants NBA, ils avaient tous l'idée, en gros, il y avait une espèce de symbiose entre tout le monde pour se dire « Ok, on est tous dans le même bateau, il faut faire en sorte de créer un moyen de rendre la ligue intéressante malgré toutes les conditions qui vont être extrêmement spéciales. Donc tout le monde était un peu de concert pour créer des petits trucs pour revenir le plus possible, etc. Enfin, il y a une espèce de tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut revenir et qu'il faut le faire de façon à ce que ça soit intéressant pour le spectateur, d'où je pense le 8-9 qui peut pas passer, parce que ça m'étonnerait que Memphis soit d'accord avec un 8-9 s'il y a pas des grosses pertes potentiellement derrière.
Bah en fait, après, tu vois, le 8-9, il est encore sous condition, hein, puisque comme tu l'as bien précisé, Adrien, c'est si jamais les deux équipes, il y a moins de 4 matchs d'écart entre les deux équipes. Aujourd'hui, il y en a 3-5, et vu les calendriers de chacune des deux équipes, au final, peut-être que les équipes auront le même bilan, ou voir, enfin, si les équipes ont un bilan, si par exemple Memphis, qui est actuellement 8e, gagne un match de plus que les Pelicans ou que Portland, au final, il n'y a pas de 8-9, quoi.
C'est vrai, il y aura pas de série pour 8-9, mais ça permet quand même que ce le soit. Alors j'ai pas le calendrier en tête de ce côté-là, mais il y a certaines équipes qui bénéficient aussi d'avoir ces 8 matchs contre des équipes plus fortes, où bah, la logique pourrait être plus respectée. Je sais pas qui avait le calendrier le plus simple. Peut-être que ça fausse aussi un peu le résultat, quoi.
Bah à la base, tu vois, l'idée c'est que les Pelicans et voire Portland même étaient favoris pour récupérer la 8e place à la fin de la saison, puisqu'ils avaient un calendrier beaucoup plus favorable que Memphis en termes de points de différentiel et la force des équipes, en fait. Sauf que on sait très bien qu'arrivant en fin de saison, t'as des équipes qui sont normalement très fortes, qui reposent des joueurs, qui voilà, le calendrier est un petit peu tronqué. Enfin, après, moi, globalement, un peu comme Ben, hein, je trouve que pour des raisons de sécurité, je pense que 16 équipes, c'était mieux. C'est-à-dire que tu prends les 8. Alors, même si tu recommences pas directement par les playoffs, hein, mais 16 équipes, c'était mieux. Je trouve qu'il y avait assez d'écart entre le top 8 des deux conférences pour qu'on n'ait pas à avoir tout ça, quoi. Et puis, il faut pas oublier que, voilà, les équipes qu'on a rajoutées, enfin, quand tu regardes à l'Ouest, ce sont des équipes qui sont à 8 matchs en dessous des 50%.
Ouais, mais c'est un peu un effet boule de neige. Excuse-moi, Ilias, je te redonne la parole tout de suite, mais parce que quand tu commences à en intégrer une fois que t'as fait le jump 8-9, après les autres sont très très près, donc tu peux pas leur dire bah écoutez, non, vous jouez pas, quoi, parce qu'entre Portland et Phoenix, il y a quoi, il y a deux matchs, trois matchs.
Il y a deux, trois matchs, ouais.
Ouais, il y a, voilà, y a aussi un autre élément à pas négliger, c'est le fait que ces équipes qui sont hors top 8 de chaque conférence, bon, ça concerne qu'une seule équipe à l'Est, elles vont aussi servir de sparring partner au reste des équipes, parce que là où on ne peut pas, après un training camp un petit peu improvisé et écourté, là où on ne pourra pas, on va dire, mettre en place, déjà que c'est assez compliqué à l'heure actuelle, mettre en place des matchs de pré-saison, un espèce de tour de chauffe, eh bien, en vérité, l'un dans l'autre, en fait, les matchs de saison régulière vont aussi servir aux équipes qui vont avoir des échéances plus importantes lors des playoffs, d'utiliser justement ces matchs pour une espèce de pseudo-préparation, alors qu'on sait qu'elles sont relativement confortablement installées à leurs différents seeds, même si on peut s'apercevoir que, même si ça se jouera en terrain neutre, on va dire qu'il y a certaines équipes qui peuvent encore tenter d'avoir un pseudo-avantage du terrain au-delà de ce qui peut se passer en bas de classement.
C'est vrai. Et pour les équipes en bas de classement, il y a aussi un aspect qui peut être intéressant pour eux. Moi, je pense que Washington est très content d'être là, puisqu'il y a toutes les discussions autour de Bradley Beal, et ça permet de le remettre un peu, de refaire des images. Il n'y a pas que pour la Ligue, il y a aussi les équipes qui ont un intérêt à mettre en avant certains de leurs joueurs, voilà, qui peuvent gagner en valeur, ce genre de choses.
Oui, totalement. Après, pour revenir sur ce que dit Ilias, je pense que les matchs, entre guillemets, de remise en forme, avec des grosses guillemets, aurait pu se faire tout simplement dans le cadre de matchs exhibition. On sait qu'il va en avoir. Et puis tout simplement, enfin, de facto, le match exhibition, pour plein d'équipes, c'est le premier tour c'est le premier tour des playoffs pour certaines. Enfin, pour 1-8, c'est le premier tour des playoffs. Tu te remets en condition.
Forcément, Ben, en fait, parce que sachant que tout va se jouer en terrain neutre, on va dire que ça réduit aussi considérablement, on va dire, malgré le talent et les forces en présence des équipes qui sont en tête de classement, disons que le fait de ne pas jouer quand même devant son public et d'être dans des conditions un petit peu moins classiques que d'habitude, on va dire, sert un petit peu plus aux équipes qui sont censées être challenger.
Ah, puis ce côté avantage aussi, enfin, premier tour un peu balade, ça, c'est valable pour les 1-8, 2-7 la plupart du temps, mais 5-6 c'est compliqué.
Ah, c'est une autre paire de manches. Ouais.
Ah oui, je suis totalement d'accord. Mais en fait, moi je comprends pas l'idée globale de faire comme s'il y avait une parenthèse. Il n'y a pas une parenthèse, il y a eu 3 mois de pandémie en fait.
Ouais, c'est ça.
Je comprends pas ça. On est vraiment en mode, ah mais les mecs, en fait, on s'est arrêté 3 mois, on revient, on fait quelques matchs et puis on fait, non les gars, il y a une pandémie en fait. Faut se réveiller là. Faut genre, moi je trouve ça incroyable en fait qu'on soit en mode, je parle pas des intervenants de podcast, je parle en gros de le plan de la NBA, c'est vraiment, ah il y a une petite pandémie les gars, on se remet tranquille chez Mickey puis on joue des matchs entre nous. Non en fait. Moi, je trouve ça incroyable. Genre, on ramène les Wizards. Désolé pour les fans des Wizards. On ramène les Suns. On ramène les Suns. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les Suns, en vrai?
C'est des sacs de frappe. C'est rien d'autre que des sacs de frappe. Ils ont rien à jouer, rien à espérer. Quand bien même on voudrait leur faire croire que mathématiquement, il y a quelque chose de jouable, on sait tous pertinemment que les Suns ont zéro chance de participer au playoff. Forcément, il y a un gros déçu. Une espèce de anti Jean-Michel Aulas qui est Damien Lillard et qui veut pas jouer, c'est tout.
Après, je trouve que tu vois, je trouve que en fait ces équipes là, plus que le rôle de sparring partner, c'est en fait pour des raisons financières en fait qu'elles sont là, dans le sens où plus t'as des équipes présentes, ben plus tu peux jouer des matchs, et plus tu as des matchs, plus tes revenus entre guillemets de diffusion vont augmenter, je pense. Et en fait, je pense que avec un certain seuil de matchs, l'NBA s'assure en fait d'avoir des revenus supplémentaires et de vendre des places supplémentaires aux annonceurs, notamment sur les pubs, les trucs comme ça, puisqu'il y aura pas de public, il y aura peut-être pas d'interview, il y aura des vides à combler. Et je pense qu'en fait, plus t'as des matchs, plus t'as des équipes, et plus t'as des matchs, et plus tu peux, entre guillemets, empocher de l'argent. Et je pense que c'est plutôt ça, en fait, qui a motivé, qui a fait qu'on soit passé de 16 à 22, quoi.
Je suis d'accord, mais il y a aussi un autre petit aspect qui va avec ça, c'est que les matchs de préparation avec les autres équipes peuvent aussi te servir à refaire monter la hype entre guillemets autour de ton produit NBA et de tester ta nouvelle diffusion, ton nouveau format, voir comment ça s'adapte à la diffusion télé, etc. sur les premières semaines, redonner envie aux gens d'aller consommer ce produit jusqu'à ce qu'il y ait les matchs coup près qui là amèneront le plus de monde, parce que t'en parlais Ben un petit peu plus tôt de l'expérience spectateur qui va être bien différente cette fois-ci. et il y a des vraies questions logistiques qui se posent en ce moment, que ce soit donc sur le son, l'ambiance dans les donc dans les stades, enfin sur le terrain en l'occurrence, il y aura probablement un peu d'ambiance. Est-ce qu'on entendra le son du parquet? Est-ce qu'on aura j'ai vu passer des histoires comme quoi ils regardaient pour peut-être utiliser les sons qui sont dans NBA 2K pour donner une fausse ambiance entre guillemets. Voilà, il y a tous ces aspects-là qui vont être aussi à tester sur les premiers matchs de saison régulière avec Sacramento, Phoenix et Washington.
Après, moi, c'est peut-être mon avis, mais je suis persuadé, je vois pas en quoi ça, on peut pas le faire avec des matchs exhibition qui valent rien, où les mecs seraient quand même un peu obligés de jouer, et ensuite, on attaque direct les playoffs. Parce qu'en fait, concrètement, les Suns apparaissent, augmenter le danger que le virus se diffuse, parce que, entre parenthèses, c'est absolument génial, le fait qu'on n'ait pas pris en considération certaines propositions comme celui de phase de groupe, etc., c'est qu'en fait, alors j'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il est évident, je pense que si tu peux, le virus peut faire le tour des 16 équipes en quoi? En 7 jours peut-être? 5, 4? Enfin, même s'ils vont être testés tous les soirs, on le sait. Enfin, ça aussi, en fait, ramener des équipes, c'est augmenter le danger. Surtout quand tu sais que les Suns ne servent, désolé aux fans des Suns, ne servent strictement à rien, en fait. Je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment fascinant.
Après, je pense que tu vois, l'idée, puisque, enfin, après, la NBA, là où je trouve qu'ils sont quand même assez précautionneux, c'est-à-dire que, on l'a dit, hein, c'est la chose, on va dire que c'est, ils essaient de faire le moins pire, quoi. C'est, il y a aucune bonne décision, c'est juste qu'ils prennent celle qu'ils estiment la moins pire. Dans le sens où t'as limite une triple quarantaine, quoi. T'as la première quarantaine des joueurs qui va intervenir à partir du 15, puisque tous les joueurs, même ceux qui sont à l'étranger, sont obligés de revenir dans leur franchise respective, à partir du 15. Ensuite, ils se font tester, ils restent pour après se déplacer à Orlando, et ensuite une quarantaine à Orlando avant le début du tournoi.
Oui, ça fait beaucoup de déplacements, puis aussi beaucoup de monde. Il y a les questions des staffs. Enfin, tout de suite, quand tu rajoutes des équipes, tu rajoutes un nombre de personnes et un nombre de risques assez important, puisqu'on le rappelle déjà, le basket est un sport de contact, donc ça peut aller très très vite, comme c'est tu ça. Disais Ben, passer d'un joueur à un autre, quoi. Mais au-delà de l'aspect son ambiance, il y a aussi la question de l'enjeu. On en a un petit peu parlé, donc de l'enjeu des matchs, donc pour le seed, etc. Mais aussi pour les joueurs, de remotivation pour les joueurs. C'est quelque chose joué sur un terrain, alors peut un seul terrain ou plusieurs, on ne sait pas trop encore. Pour des joueurs donc sans le public, il y a pas l'ambiance play-off qui sera là. On est quand même sur quelque chose d'assez particulier. On n'a pas encore vu beaucoup de réactions de joueurs, mais je pense pas qu'ils soient tous hyper emballés non plus, quoi.
Ouais, je pense que c'est. Alors déjà, je pense que ça donne un avantage à Kawhi qui est un robot en fait. Donc lui, il s'en fiche un peu qu'on joue sur. Le mec s'en fiche, mais non, c'est extrêmement. Alors moi, c'est une expérience totalement personnelle, mais déjà au foot, quand il y a des matchs à huis clos, je peux pas les regarder. Je sais que la Bundesliga. Ah, moi, je trouve ça totalement indigeste, je trouve, pour moi, c'est comme si je regardais de la DH, en fait, je m'ennuie profondément. Je trouve que, surtout dans un contexte de playoff NBA, le public joue un rôle important. Après, je vais pas me plaindre que la NBA fasse son retour. Je me dis juste, en fait, moi, j'ai très, très peur qu'il y ait une phase un peu de retour de la NBA, voilà, tout le monde est content, et qu'en fait, on arrive fin août, début septembre, deuxième tour des playoffs, finale de conf, et on se dit quand même, waouh, c'est long, quoi. 7 matchs dans des salles vides, avec des joueurs. Enfin bref, il y a un moment où genre ça pèse. Moi, j'ai très très peur de ça.
C'est vrai que moi aussi, je suis un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire que je suis très content que la ligue reprenne, parce qu'on a été sevrés, on est quand même des fans qui consomment beaucoup beaucoup de basket au quotidien, et au-delà du fait que ça reprenne, il y a toujours cette espèce de questionnement, c'est-à-dire que quel rendu ça va nous être projeté une fois qu'on sera face à nos 2, 3, 4 premiers matchs de saison régulière à regarder. Moi, qui aime aussi beaucoup le foot, je suis un petit peu comme Ben, c'est-à-dire que j'ai essayé, j'étais très content par exemple que certains championnats reprennent, là j'ai tenté de regarder ce qui se faisait en Allemagne en Bundesliga, j'ai regardé allez, grand max 15 minutes, ça m'a emmerdé et je suis passé à autre chose, quoi. Et je sais pas quel effet la NBA, la reprise de la NBA aura sur moi et ma passion entre guillemets, mais en tout cas ça reste une question en suspens, et quoi qu'il arrive, on pourra jamais avoir quelque chose de similaire à ce qu'on avait avant.
Moi, je suis un peu dans l'autre équipe. Je sais pas si Tom, tu seras avec moi, mais je trouve que, ah bah, parfait. Du coup, je vais un peu te lancer dessus, mais genre, le basket, je trouve, se prête mieux que le foot, beaucoup mieux que le foot, à une salle, entre guillemets, vide, avec le son. Mm-hmm. C'est-à-dire que bon, il y a ce plaisir des chaussures qui grincent sur le parquet, mais pas que.
Dimanche matin, alors, on verra si c'est pareil.
Ouais, non, mais c'est pas le même niveau de match non plus. C'est-à-dire que, voilà, on parle ces dernières semaines, on a réentendu parler du scrimmage de la Dream Team de 92, entre l'équipe Michael Jordan et l'équipe Magic Bird. Qui était un des matchs les plus intenses que les gars ont joué et qu'ils ont le plus apprécié. Je pense qu'il y aura aussi un peu de ça, et puis il y aura entendre. Alors ça va être une vraie question pour la NBA d'ailleurs. Tu me diras ce que t'en penses, Tom. Du coup, c'est est-ce que si on entend le trash talk entre les joueurs, on peut entendre des choses que la NBA a pas spécialement envie de diffuser, j'imagine.
Même en discutant avec les arbitres.
Oui, les discussions avec les arbitres, les discussions entre les joueurs, les discussions même sur le banc, est-ce que les équipes vont pouvoir s'entendre, etc. Ouais, il y a plein de petits détails comme ça, mais moi personnellement, en tant que spectateur fan de basket, je pense que, alors sur la longueur, je suis peut-être un peu d'accord, la réserve de Ben, je l'entends, mais sur les premiers matchs, moi je vais être super emballé.
C'est ça. Moi, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle j'aime beaucoup les matchs à huis clos, c'est qu'en fait, un truc tout con, même tu vois, les matchs de foot à huis clos, t'entends les mecs parler, t'entends les ça vient dans le dos, machin, remet, tu vois, ça c'est des trucs. C'est super intéressant, c'est ça. Et en fait, même tu vois, sur le terrain, tu peux entendre, voilà, qui est-ce qui appelle la couverture sur le pick and roll, qui ne respecte pas la rotation. Enfin, je pense que ça, ce sont des trucs qui te permettent d'un peu de mieux comprendre le jeu et de mieux comprendre comment se passe la défense. Mais après, c'est ça, si tu regardes, ça c'est si t'as un regard peut-être un petit peu plus concentré, quoi. Si t'es pas forcément un regard de peut-être détente. Mais ah c'est bah vrai oui, que sur la longueur ça peut être un peu chiant en fait d'entendre les mecs parler, discuter tout ça. Mais moi je trouve ça bien en fait.
C'est bah ouais non mais disons que là tu te mets dans la peau de. Enfin c'est par rapport à une analyse très technique de la chose. Mais il faut savoir que la présence d'un public génère aussi, on en parlait la semaine dernière lors du podcast dédié au Game 7 des finales 2016, la présence du public génère de l'intensité. Et c'est quand même quelque chose d'essentiel, et c'est la raison pour laquelle moi, depuis quelques années, je mets un petit peu entre parenthèses la saison régulière, et que véritablement je commence à me transformer en zombie à l'approche des playoffs. Parce que ça fait quand même partie de la chose. Enfin, des playoffs sans public. Enfin, essayez un petit peu de vous projeter, les gars. Et je pense que vous l'avez déjà fait. Ok, on va pouvoir entendre Chris Paul, LeBron James, tous les espèces de général de parquet gueuler à tout va, placer les mecs à droite à gauche et être un peu le relais des différents coachs sur le terrain. Mais au-delà de ça, la NBA reste un entertainment et disons que sans public, ça va être très très compliqué quand même de se mettre dans des conditions idéales pour regarder ce show.
Ah, ça fera des drôles d'images à vendre. Petite dédicace au Pascal Ougeng qui parle souvent du shoot de Damian Lillard qui nous est remis à toutes les sauces. C'est vrai qu'un game winner de playoff sans public, sans réaction,
exactement,
on va faire une image qui nous martèle sur les réseaux sociaux, ça sera peut-être un peu moins flashy, quoi.
Tout à fait.
Et puis, pour revenir sur l'idée des placements techniques, j'entends Tom, mais en fait, moi, encore une fois, c'est plutôt la longueur. Pour moi, c'est un petit gadget qui va t'amuser 3 semaines. Quand tu vas être, ça va faire 6 semaines que t'entends James Harden crier sur la ligne des lancers francs, tu vas en avoir marre, en fait, au bout d'un moment. Et je comprends, moi aussi, au début, je trouve ça intéressant, mais en fait, c'est sur la longueur, moi, j'ai très peur de la lassitude, surtout qu'on sait que l'offre sportive, il y a un truc que je trouve qu'on parle pas assez, c'est qu'il va se créer un espèce d'embouteillage en août-septembre, où en fait, plein de trucs vont reprendre en août-septembre, en fait, et où les gens, là où tout le monde te dit à l'heure actuelle, ah, mais ça va être la NBA, les gens vont reprendre, les gens, en août-septembre, ils vont avoir un choix qu'ils auront peut-être jamais eu dans leur vie, tout va se faire en août-septembre à un moment, donc je sais pas, moi, ça me laisse penseur, tout ça.
Parce après, le truc, c'est quoi l'alternative, quoi?
Ah, il n'y en a pas.
Tu peux pas mettre du public dans les salles, quoi. C'est
toujours mieux que rien, évidemment, qu'on préfère voir les matchs reprendre, mais disons que les conditions dans lesquelles tout ça va reprendre vont être plus que particulières. C'est clair.
Alors, je citerai juste deux précédents. Les Atlanta Falcons en NFL qui ont été grillés pour mettre dans leur sono des cris de public, alors qu'il y avait déjà un public. On les salue. Et je citerai aussi l'exemple du Séoul FC qui a fait un truc très douteux. J'inviterai les gens à regarder sur Internet pour remplir le public. Alors après, ces deux solutions, vous en faites ce que vous voulez.
Et en plus,
le CEO de l'FC, ça me dit quelque chose. C'est une histoire de poupée gonflable.
Exactement. C'est très, très douteux. Hein, mais...
ouais, il y a eu des émissions de télé aussi qui ont mis des écrans avec des gens en visio à la place des donc sur des mannequins, des têtes d'écran avec des gens en visio. Ah, ça pourrait être une autre façon de voir, peut-être à développer aussi, comme il y avait la possibilité de regarder les matchs en sideline qu'ils avaient fait dans les playoffs derniers. Mais aussi, donc ouais, ce côté public, ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint l'avantage du terrain, vraiment. Et c'est une vraie question qu'il va falloir se poser sur quel est l'avantage en fait de finir devant finalement cette fois-ci au niveau du classement, puisque si tout le monde joue au même endroit, le dernier match il se joue à Orlando quoi qu'il arrive quoi. Alors, et même pour le Magic éventuellement ça change rien puisqu'il n'y a pas de public, donc ceux qui ont non mais qu'il n'y a pas de public, il n'y aura pas de public à Disney, qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas une attaque contre les fans du Magic, mais voilà, ce que je veux dire c'est que déjà pour les équipes qui ont l'avantage du terrain ça pose une question, pour les équipes, je le disais à moitié en plaisantant aussi en off, les Lakers qui joueraient 7 matchs à domicile face aux Clippers, ce ne sera pas le cas. Voilà, il y a une vraie question de qu'est-ce qu'on pourrait donner à ces équipes-là pour qu'il y ait un véritable avantage à avoir fait une meilleure saison que le voisin, quoi.
Bah, la première idée, déjà, c'est de se dire que malgré tous les baratins de ceux qui sont garants de l'image de la NBA, il faut savoir que quoi qu'il arrive, et c'est vrai, j'aime pas dévaloriser les titres des uns et des autres, mais il est vrai que ce ne sera pas un champion comme les autres. De là à dire que il y aura une astérisque à côté de ce titre de champion, je sais pas si je suis habilité pour pouvoir distribuer les bons et les mauvais points, mais ce qui est sûr, c'est que à la base, c'est déjà pas une saison comme les autres. On va avoir des playoffs joués dans des conditions limites de matchs de région ou de départemental. Et forcément, bah, dès l'instant où tu commences à enlever les bénéfices que certains ont pu récolter à travers la soixantaine de matchs qu'ils ont joués pendant la saison régulière, et que tu leur enlèves un petit peu tout ça en essayant de combler avec des espèces de voilà, t'auras le ballon en début de temps mort, on pourra te ramener le logo sur le parquet de Disney, on pourra t'accorder telle ou telle chose. Enfin, on sait tous les uns et les autres que en terrain neutre, tu peux faire ce que tu veux en matière d'habillage et de confection de public. Ça remplacera jamais le terrain de chacune de ces équipes.
Ouais, pour moi, typiquement, c'est un titre qui sera beaucoup plus dur que les titres classiques, hein, je pense. Hein. Par rapport à tout ce qu'il y a eu, le fait de devoir se remettre... Puisqu'en fait, la saison régulière, on dit que c'est un marathon. Enfin, une saison NBA, c'est un marathon. Mais en fait, là, t'as le marathon et t'as le sprint tout de suite après, quoi. Genre, t'as pas d'échauffement, en fait. C'est-à-dire que... Moi, je trouve que cette saison-là, en fait, le champion de cette année, il va faire preuve de vraiment de grosses capacités, de très, très grosses capacités d'adaptation. Et surtout de pouvoir... C'est pas quelque chose auquel tu étais préparé. Donc pour moi, ce titre-là, il est beaucoup plus dur, hein, par rapport aux circonstances qui a eu, quoi, et tous les changements qui a dû y avoir, puisque voilà, généralement, les équipes, elles se préparent longtemps à l'avance, tu vois, à la trade deadline, tu sais globalement qui est-ce que tu as des chances de jouer, qui te fait peur, qui tu devras battre, quoi. Mais là, en fait, avec la période d'arrêt de 3 mois, en fait, tu sais pas, enfin, tu auras le nom des équipes, mais tu sais pas si ces équipes-là ce sont vraiment les équipes que tu avais avant, quoi. Entre les joueurs qui vont peut-être pas revenir à 100%, des joueurs qui se sont blessés, des joueurs qui sont pas blessés, des joueurs qui sont pas forcément concentrés sur ça parce qu'ils sont loin de leur famille, les joueurs qui auront totalement changé leur routine, puisque en NBA, les joueurs te parlent beaucoup de routine, il faut qu'ils trouvent leur routine pour après que ça marche. Mais en fait, là, t'as un changement de routine pour tout le monde. Et ça, c'est un truc, ouais. C'est un truc qui, je pense que c'est un truc qui est un peu sous-côté, mais la routine en NBA, c'est quelque chose qui est hyper important pour les joueurs. Et là, le fait de devoir se réadapter à une nouvelle routine, ben, ça peut-être totalement changer l'état d'esprit d'un joueur et son niveau sur le parquet.
Ouais, c'est pour ça que, genre, il y aura une astérisque sur ce titre, c'est sûr et certain, mais comme le titre du lockout ou d'autres, mais je pense pas qu'il soit dévalorisé non plus comme des IA. Je pense que voilà, de toute façon, dans 20 ans, il y aura écrit champion NBA, à côté de la franchise en question, et puis ou du joueur éventuellement, et puis basta. Mais effectivement, c'est un peu, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez inhabituel pour tout le monde, que ce soit pour la NBA comme on le disait, pour les équipes, pour les joueurs, ça décale le calendrier. Enfin, il y a un nombre de répercussions à cette reprise qui est presque infini en fait au final.
Si je peux me permettre, je dois être le seul encore une fois qui doit penser ça, je reste persuadé que l'avantage du terrain conservé, c'est le cadet de nos soucis. Alors oui, il m'arrive de lire des trucs intelligents, je me rappelle avoir lu un papier universitaire, parce que des fois ils font ces analyses là sur l'importance des matchs à domicile à l'extérieur selon les sports américains, et là où l'avantage du terrain en NBA est plus important, le seul moment où c'est extrêmement important, c'est dans le cadre d'un match 7 en fait. Les statistiques te montrent que c'est vraiment le match 7, c'est probablement le seul match où c'est extrêmement important d'avoir ça. Et ensuite, premier contre-argument selon moi qui montre que c'est quand même une exception plus qu'une règle, le moment où l'avantage du terrain est extrêmement important. Ensuite, quand on va avoir un 8, 2, 7, les Bucks qui jouent Orlando à Milwaukee sur la Lune ou sur Pluton, ils vont les taper en 4 matchs en fait. Donc, donc en fait, pour moi, en fait, c'est sur des cas très très précis où le manque d'avantage du terrain va poser problème. Mais je pense que ça sera pas un truc si déterminant que ça. Alors bien sûr, je pense que le cas Lakers-Clippers, c'est peut-être le cas particulier. Mais autrement, globalement, je suis persuadé que c'est pas un truc si marquant que ça.
Enfin, personnellement. Aussi Boston-Philly au premier tour, je pense que quand même les Celtics auraient préféré recevoir les Sixers, parce qu'on sait que c'est quand même une opposition très très chaude de historique et récente de la conférence Est. Et je pense que sachant qu'ils sont pour l'instant censés se jouer en tout début de playoff, je pense quand même que c'est quelque chose que Boston aurait préféré bénéficier de devant ses fans.
Après, je suis d'accord avec Tom, ça reste très fort à domicile.
Ouais.
Je suis d'accord avec Tom, bien sûr que ça va influencer les routines des sportifs, des basketteurs qui sont fondamentales. Mais globalement, alors c'est peut-être que je vais être contredit dans 3 semaines, hein, mais je suis pas sûr qu'une des séries va voir son destin être fondamentalement changé parce qu'il n'y a pas d'avantage du terrain.
Moi, un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit sur l'avantage du terrain. Enfin, moi, je pense qu'il y a peut-être 2 équipes où ça va peut-être jouer quelque chose. C'est au niveau de Denver et de Utah, puisqu'on sait que ces équipes-là ont un avantage par rapport à l'altitude et que elles, ce sont des choses où, voilà, ce sont des choses physiques où c'est prouvé que ces équipes-là, quand tu finis un road trip à Denver et à Utah, généralement, ces équipes-là, elles te tapent. Enfin, généralement, chez elles, avec l'altitude et tout ça. Et, autre chose aussi par rapport à Ben, moi je me dis que au final, est-ce que le fait de pas jouer l'adversaire le plus faible, c'est pas déjà un avantage assez conséquent?
Totalement, je suis d'accord.
Et comment ça?
Ben en fait, quand t'as fait une meilleure saison régulière, tu joues le dernier qualifié. Quand si t'es premier de ta conférence, tu joues le dernier qualifié de la conférence. Donc du coup, t'as un avantage plus faible que le deuxième. Donc, est-ce que ça déjà, c'est pas un avantage en soi?
Sachant qu'on joue sur 7 matchs en plus.
Voilà, t'as un parcours plus simple, entre guillemets.
Ah oui, déjà, il est existant, effectivement, dans ce terme de format. Mais tu vois, par exemple, dans les formats qui avaient été débattus à un moment, par exemple, dans le 1-16, il me semble que c'était ça, il y avait aussi l'idée que, par exemple, le premier puisse choisir son adversaire. Genre, par exemple, justement, si t'es dans le cas de Boston, une fois que t'arrives à la 3e, tu préférerais pick Indiana que pick Philadelphie si tu dois choisir ton adversaire en schématisant. Donc qui pourrait rajouter, mais en soi le seeding, en fait, le fait que le premier affronte le dernier, effectivement, ça a été fait pour déjà donner un avantage en plus progressif, comme tu le disais, entre les équipes selon le résultat de la saison régulière, effectivement.
Parce que ton parcours est beaucoup plus compliqué, hein. Parce que quand t'es premier, tu affrontes le 8e et après t'affrontes le 4e. C'est pas pareil, hein, que si t'es par exemple t'es 2e, t'affrontes le 7e, après tu dois affronter le 3e. Pour après t'es tapé le premier.
Mais tu renforces quand même ce petit vice qu'il peut y avoir. Alors là, j'ai pas bien regardé s'il y a beaucoup d'écart. Non, c'est quand même assez serré. Le petit vice qu'il peut y avoir à certaines équipes qui vont vouloir perdre des matchs pour éviter certains adversaires, parce que d'autant plus que t'as pas l'avantage du terrain, et ben tant qu'à faire, autant essayer d'avoir l'adversaire que tu veux, quoi.
Tu vas jouer le match-up le plus favorable.
Voilà.
Bah, parfois, ça réussit pas à tout le monde, hein.
Ah non, bah, ça c'est sûr. Coucou l'Espagne.
Mais moi, j'avoue que c'est un truc auquel j'avais beaucoup réfléchi parce que, voilà, on renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur le changement de calendrier, playoff, etc. Je me suis toujours demandé, est-ce que, pour ça et dans d'autres sports, est-ce que choisir ton adversaire, c'était quelque chose de bien ou mauvais? Alors, je vais vous décevoir, j'ai pas la réponse. Je sais pas si c'est pas un gadget plus qu'autre chose. Parce que, ok, il y aurait peut-être l'idée du côté de l'équipe choisie, particulier si c'est par la tête de série numéro une, de se dire, ah ok, donc on est un peu pas vraiment respecté. Mais de l'autre, je me dis qu'en fait, ça serait un moyen juste différent de, d'arriver à la même conclusion à peu près.
Ouais, bah on revient en fait au final, est-ce que c'est pas aussi un avantage de communication tout simplement et financier, c'est-à-dire que d'alterner, d'aller à domicile à l'extérieur, changer la couleur de la salle et les ambiances, voilà, ça permet à la NBA de revendre son produit, on revient un peu au sujet de départ, donc ça va, est-ce que ça va pas plus impacter la NBA en soi de pas avoir ça que finalement les équipes sur le terrain, quoi.
Ouais, totalement. Puis il y a quand même, même si on est d'accord pour dire que ça sera particulier, à la fin il y a un titre NBA à la clé, donc tu sois chez toi ou pas chez toi, les mecs auront quand même le, et je pense particulièrement aux équipes qui sont taillées pour le titre cette année, auront quand même voilà le couteau entre les dents quoi qu'il arrive.
Ouais, et surtout sur le plan de sur le plan de l'image, t'as aussi le fait que je pense pas que la NBA pouvait accepter et tolérer en fait une saison pour laquelle les équipes auraient joué, on va dire entre guillemets pour du beurre, et sans qu'il n'y ait de champion à l'issue de ces matchs qui ont été joués quoi. Donc quoi qu'il arrive, je pense que même si on avait une idée autre il y a quelques semaines, il semblait évident qu'ils allaient tout faire pour que ça reprenne, parce que voilà, on peut pas commencer une saison sans qu'il y ait un champion au terme de celle-ci.
Surtout que c'est une saison charnière, hein. Quand on regarde tous les bouleversements qui ont lieu, au début de la saison, entre les différents transferts, la free agency, en plus, là, on est sur une saison historique, enfin, LeBron James, il lui reste pas 3-4 saisons à ce niveau-là non plus, hein.
Ah, le temps normalement, pour lui, c'est sûr.
Enfin,
c'est
normalement, clair. Tu vois. Lui, il a pas le temps de perdre une saison, vraiment pas, hein.
Bah d'ailleurs, il a été un des très grands instigateurs il avait dit des choses dans ce sens-là, qu'il en visait absolument pas le fait que la saison puisse être annulée. Et là, je pense qu'à mon avis, il parlait plus en son nom que en celle des Lakers, tu vois. C'était clairement sa legacy qui était en ligne de mire et le fait de pouvoir accéder peut-être à un titre de plus.
Tu vois, parce que là, si personne joue, là, les Clippers qui ont tout bazardé pour récupérer Paul George, au final, ça leur fera, parce que les gars ont signé des contrats de 2 ans, hein. Ils ont que 2 ans, hein. Donc si cette année ils jouent pas, ça veut dire qu'ils jouent un all-in sur l'an prochain.
Ouais.
Oui, non, mais voilà, il y a pas que LeBron, il y a beaucoup d'équipes. On en parlait dans le podcast de la semaine dernière de l'histoire de fenêtre pour remporter un titre. Et il y a plein d'équipes et en termes de contrats aussi, puisque cette saison n'est pas blanche, les contrats vont arriver certains expirations. Enfin, en tout cas, il y a une année qui va passer sur tous les contrats de joueurs NBA.
Bah, c'est ça.
Donc, pour les équipes qui ont des bons joueurs à forte qualité pour un prix raisonnable, je pense notamment aux Clippers, mais ils sont pas tout seuls. Voilà, il y a aussi intérêt à, bah, s'il y a fenêtre de tir, possibilité d'aller au bout, ce titre au final, malgré l'astérisque, il sera sur dans les livres d'histoire de la NBA, donc t'as envie de le jouer, quoi.
Bah là le point que tu soulèves, Adrien, concerne surtout par exemple le joueur qui est certainement le plus prisé pour l'été 2021, et c'est Giannis. Giannis, sa fenêtre de tir, enfin en tout cas pour les Bucks, pour pouvoir le convaincre de rester, il y a cette saison et celle d'après. Donc clairement, si tu réduis ces cartouches de 2 à une seule, bah forcément ça compromet encore plus la chance de le garder, clairement.
Mais du coup, ça me fait penser, j'ai envie de te relancer, Ben, sur ce sujet-là, à la seule équipe qui a voté contre cette reprise. Alors est-ce que c'était plus pour la forme que pour le fond, savoir, c'est Portland. Donc qui est effectivement pas forcément concerné par cette fenêtre de victoire, hein. Portland ne fait clairement pas partie des favoris et peut-être même qu'ils feront même pas les playoffs, mais qu'est-ce qui pousse une équipe, selon toi Ben, une équipe comme Portland à dire non, nous on préfère ne pas reprendre?
Alors visiblement, d'après ce qu'a pu dire CJ McCollum, c'est que le propriétaire a écouté les avis négatifs de ses joueurs. Qui sont vachement intéressants. Alors ensuite, j'ai pas assez creusé le dossier pour voir quels étaient ses avis négatifs. Après, c'est vrai que c'est surprenant que ça soit Portland qui est en soi un des grands gagnants quand même, hein, de la formule comme elle a été réfléchie, qui pousse à dire non. Après, je peux comprendre l'inquiétude des joueurs parce que j'ai quand même l'impression que là où on dit que la NBA c'est une ligue des joueurs, dans ce, on va dire, dans le cheminement auquel on assiste, alors certes, on a parlé beaucoup du poids de Chris Paul, notamment dans sa relation avec le, avec Disney, etc., et dans un espèce de triangle Adam Silver, Disney, Chris Paul. Il y a quand même, globalement, je trouve que la décision s'est faite beaucoup et s'est tournée beaucoup autour des propriétaires, et c'est pour ça qu'un CJ McCollum a salué la décision de son propriétaire et de son front office d'écouter les joueurs, parce que j'ai quand même l'impression que les joueurs, on les oublie beaucoup parce qu'ils sont quand même au centre du dispositif, et mis à part bien sûr qu'on a fait voter le plan de retour, mais d'un côté, enfin c'est un peu comme tu quand tu fais voter un plan de reprise dans une usine, les ouvriers vont pas dire non. Oui, ils vont pas te dire non, en fait. Ils vont pas te dire, non, non, ça va, en fait. On accepte de pas prendre notre chèque, etc. Ils vont te dire oui, en fait. Donc, je sais pas. Moi, globalement, dans la discussion, comment elle a été amenée. Alors, bien sûr, je suis pas dans les petits papiers d'Adam Silver, donc je sais pas vraiment comment ça s'est passé. Encore une fois, et je finis toutes mes interventions comme ça, ça me laisse songeur.
C'est intéressant. Ce que vous voyez, c'est vrai que tu soulignes le point, c'est, il y a que Portland qui a voté contre, et Portland qui était concerné par la reprise. Il y a aussi des équipes qui, par exemple, n'y sont pas, et auraient pu prétendre l'être. Comme on dit, il y a que Washington à l'Est. Il y a peut-être des équipes qui auraient pu se dire, écoutez, on n'est pas très très loin. Je sais pas, je crois que Charlotte est pas très, et un match ou deux matchs derrière Washington. Ouais, ouais. Aurait pu dire, bah, on veut jouer. Chicago aussi. Bon, moi, personnellement, je vous le dis, je suis plutôt content qu'on joue pas, mais c'est un autre sujet.
Atlanta et compagnie, quoi.
Oui, voilà. Est-ce que c'est pas surprenant, voilà, qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui aient dit non? Est-ce que, enfin, quelle est la logique que tu vois derrière, Tom?
Moi, je me dis qu'en fait, Portland, eux, ils ont plutôt dit non par rapport au format. Peut-être qu'ils voudraient, ils voulaient un format peut-être plus avantageux avec moins d'équipes. Peut-être que c'est ça, et puis pas forcément lié à la santé des joueurs. Peut-être qu'ils voulaient un truc plus avantageux, puisque, enfin, même tu vois, eux, ça les avantage pas si, par exemple, ils sont pas huitième. Déjà, il faut qu'ils fassent un effort pour rester dans les entre la 9e et pour rester à la 9e place, mais après tu vois le 8e, il doit gagner qu'un seul match et le 9e doit en gagner deux, tu vois. Donc peut-être que c'est peut-être quelque chose là-dessus sur lequel ils étaient pas forcément d'accord et pas sur la logique vraiment même de la reprise, quoi. Je pense que c'est plutôt un petit sur un détail qu'ils étaient pas d'accord et du coup ils ont voté défavorablement parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui était plus favorable, puisque par exemple on parlait de un moment du format Coupe du Monde où t'avais les différents groupes. Ben en fait là t'arrivais directement au deuxième tour des playoffs, c'est-à-dire que à partir du moment où tu sortais du groupe t'arrivais directement au deuxième tour, t'avais plus l'étape du premier tour. Et peut-être que ça c'est quelque chose qu'ils voyaient plus c'est quelque chose qu'ils voyaient comme plus intéressant pour eux, avec la possibilité d'aller plus loin en playoffs. Donc peut-être que c'est ça en fait qui c'est sur ce point-là qu'ils ont bloqué. Après, on a parlé des personnes qui sont concernées mais qu'on n'entend pas beaucoup. Tu vois, les coachs qui sont un petit peu plus âgés dans un dispositif comme ça, qui sont entre guillemets plus vulnérables aux soucis. Tu vois, tous les tests nasaux, les choses comme ça. Enfin, ce sont des personnes un petit peu plus fragiles, car plus âgées. Donc, ces personnes-là, tu vois, les arbitres aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Les arbitres, est-ce que... Tu vois, on parlait beaucoup de l'effet... domicile extérieur, notamment dans la façon dont les arbitres, bon, désolé de dire ça comme ça, mais la façon dont les arbitres officient, on va dire, ben en fait tu vois, eux aussi c'est quelque chose qui peut être ce sont des personnes qui font partie intégrante du dispositif, et la reprise aussi va les impacter d'une façon ou d'une autre, puisque ben, les mecs qui sont en quarantaine machin 3 mois, enfin ça tout de suite c'est plus compliqué pour tout le monde à vivre, hein, ça.
Mais clairement, arbitre, staff également, et puis bon, on parle, ils sont concernés parce qu'ils doivent se rendre sur place, mais il y a aussi tout le fait de bah, tu te rends sur place sans tes proches, etc. Donc c'est une vraie contrainte pour tous les environnements des équipes de la NBA au global, quoi.
Et au-delà de ça, toutes ces personnes qu'on a mentionnées, excepté les coachs, partagent quelque chose en commun, et c'est le ballon. Dans un cas de virus, sachant que voilà, tu pourras pas faire en sorte qu'il y ait un ballon en attaque, un ballon en défense, un ballon pour l'arbitre. Bah forcément, le risque, comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, le risque zéro n'existe pas. Donc on peut dire et faire ce que l'on veut. Clairement, la NBA a trop d'enjeux financiers et en termes d'image pour s'en arrêter là. Et c'est la raison pour laquelle ils feront tout pour que ça reprenne.
Et pour peut-être revenir sur l'aspect Portland, je rejoins Tom et je pense que Portland aurait peut-être été... était peut-être l'avocat d'un d'une solution plus sèche où en fait toutes les équipes peut-être, en fait l'idée du tour préliminaire était étendue parce que quand je regarde le profil des équipes qui peuvent prétendre à 8e strapontin à l'ouest, je me mets à la place d'un Lillard ou d'un McCollum, je me dis que Memphis c'est une équipe jeune, ils me font pas forcément peur, les Pelicans, Sacramento, les Spurs en fin de route, en fait c'est que des équipes qui ont soit sont en fin de route comme les Spurs, soit qui ont pas l'expérience playoff qu'ont quand même les Blazers, donc t'avais peut-être l'avantage sur un truc beaucoup plus sec à te dire si c'est sur du match couperet, en fait on peut potentiellement battre toutes ces équipes.
Si ça couperait 8-9 ou peut-être mini tournoi entre les 5 équipes par exemple, une tournoi entre les 5 équipes et le gagnant rentre directement en playoff. Peut-être que ça, c'était beaucoup plus avantageux pour eux, effectivement.
Après, et par rapport au vote plus global, encore une fois, je renvoie à ce que j'ai dit, il y a vraiment, je pense, une solidarité qui serait dans la NBA à se dire, même les équipes pas sélectionnées qui quand même voudraient jouer, on l'a lu, se disent, bon bah déjà 22, c'est beaucoup plus que certaines prévisions, donc on va se satisfaire, quoi. Enfin, moi, j'aurais trouvé honteux que Charlotte demande à jouer, quand même. Enfin...
ce sont des équipes qui sont, si tu parles dans l'optique, parce que la plupart de ces équipes là au final elles jouent pour quoi, elles vont jouer pour avoir un plus mauvais bilan, pour avoir de meilleures chances à la loterie, enfin généralement
on parle
ou
des
peut-être
pistons.
Des équipes voilà, ou peut-être des équipes par exemple comme Atlanta qui eux avaient besoin de voir peut-être John Collins avec Clint Capela, quoi, sachant qu'il va peut-être falloir le payer et tout ça. Donc à part ces cas-là, enfin je ne trouve pas que ce soit aussi intéressant que ça de voir des équipes provenir. Surtout que voilà, tu dois refaire un training camp pour jouer 8 matchs pour après remettre les mecs en vacances. Ça a pas, enfin pour moi ça a pas d'intérêt en fait de faire ça. Et après bon, tu as aussi le côté que au final ça fait quand même beaucoup de temps sans voir les joueurs, c'est-à-dire que là si on parle d'une reprise fin décembre, les mecs sont arrêtés en quoi, mai, fin mai.
Oui, pour les équipes
même,
non mars,
même
mais
avant,
enfin, c'est
mars,
mi-mars,
ouais.
Je crois.
Mi-mars, à peu près que les gars sont arrêtés. Donc en fait, tu n'auras pas de contact forcément avec tes joueurs. Enfin, tu n'auras pas les joueurs sous la main entre guillemets ou réintégrés dans ta facility, quoi, dans ton cocon entre guillemets pendant près de 8 mois, quoi, 8-9 mois. C'est énorme, hein, au final.
Ouais, ça c'est la question de la reprise de la saison prochaine qui va se poser évidemment, mais tu soulèves aussi un point intéressant quand même dans ce format, ce qu'a réussi à éviter la NBA, ce que je trouve assez intéressant qu'on n'a pas mentionné, c'est que les équipes qui vont jouer et qui sont non qualifiées pour les playoffs pourront pas justement comment dire entamer leur bilan pour gagner des places dans la draft. Quoi qu'il arrive à la fin, les pourcentages de chance à la loterie seront ceux arrêtés à la date de pause de la NBA pour cause de coronavirus. Donc je crois que c'était mi-mars. Voilà, ça au moins on n'aura pas de tanking et tu t'assures en principe d'avoir des matchs au moins disputés, quoi.
Mais ça, tu vois, je suis pas sûr de ça parce que en fait on parle des équipes du bas, mais disons par exemple là pour l'instant Memphis est en playoff, donc ça veut dire qu'il serait hors loterie. Vu que le pick de Memphis, normalement, il est protégé top 6, et s'il sort du top 6, il va à Boston. Normalement. Si Memphis, au final, ne fait pas les playoffs, tu les remets dans la loterie, du coup.
Ah, bah, alors là, pour le 8-9, je crois pas, hein. Je crois qu'on garde le classement à date, hein. Je pense qu'ils seront quand même considérés comme en playoffs. Enfin, à voir, c'est un cas très particulier, effectivement.
C'est ça, parce que, par exemple, si on prend Portland ou même New Orleans, si par exemple ces équipes-là font les, ou disons, ou même les Spurs, hein, ou même, même Phoenix, même si Phoenix il y a très peu de chances.
Tom, mais restons sérieux.
Voilà. disons par exemple Portland. Portland qui est dans la loterie actuellement. Si jamais ils arrêtent le strapontin pour aller en playoff, ils peuvent pas être en playoff et avoir leur pick de leur pick qui est dans la loterie. Et t'imagines, ils vont en playoff et ils se font tirer dans la loterie.
Ah ouais, non mais c'est un cas particulier, je t'avoue que j'ai pas la réponse, j'ai pas creusé assez ce sujet-là, j'ai lu que c'était effectivement les seedings resteraient les mêmes, par exemple si Phoenix passe devant San Antonio, ce Phoenix restera quand même avec de meilleures chances à la loterie, mais pour le cas particulier d'un changement de participation en playoff, effectivement, faudrait regarder, parce que oui, si en plus derrière, mettons dans ton exemple, Portland récupère le premier choix, on n'a pas fini d'en entendre parler.
Ah bah de toute façon, là, il y a un mec dans l'univers qui a creusé cette question, cet homme. Ça, c'est clairement... à l'image de Lillard, là, il a vu midi à sa porte, quoi, donc il a envisagé toutes les options.
Pour une fois que je suis pro Grizzlies, écoutez.
Première fois en plus de 200 épisodes, c'est quand même, faut noter la performance. Après, Adrien, moi, t'as parlé du truc, vous savez, moi, je suis toujours dans les calendriers, etc., truc dont tout le monde se fiche à part moi. La question qui me fascine le plus dans tout ça, hein, parce qu'en fait, c'est pas le, moi, c'est le hors terrain qui me fascine plus que le basket. Désolé, Pierre. Moi, c'est la saison prochaine, ça me fascine. On a déjà eu le syndicat des joueurs qui est venu nous annoncer que démarrer le 1er décembre, c'est très improbable. Et là, tu te poses tout de suite la question. En fait, t'as pas 15 000 options. Soit tu démarres vraiment le 1er décembre, soit tu fais une saison comme ce que t'avais pu faire à l'occasion du lockout, c'est-à-dire tu réduis peut-être le nombre de matchs, tu t'imposes plus de back-to-back, etc. Soit tu finis plus tard, mais là il y a l'impératif JO qui pour moi rend pratiquement ça impossible, sans parler du fait que je vois mal la NBA 2 années de suite aller contre la NFL. Et puis alors soit t'as le truc très simple, c'est que tu réduis vraiment le nombre de matchs sans adopter un calendrier type lockout en fait. Et ça c'est une question fondamentale en fait, parce que si tu continues à décaler en fait, tu vas finir de décaler quand il y a forcément un moment où une intersaison NBA sera tronquée. Il faut réfléchir quand.
Et quid des JO surtout, sachant qu'ils viennent l'année prochaine, comment tu vas pouvoir gérer justement toutes ces histoires de calendrier en fonction des échéances qui ne concernent pas forcément que la NBA, mais dans lesquelles les joueurs NBA peuvent être impliqués.
Alors moi, c'est pour moi, c'est les JO, c'est le seul truc contre lequel ils peuvent pas aller. Pour moi, ils peuvent pas aller enfin expliquer dans une ligue internationalisée où il y a autant de joueurs d'autres pays, leur expliquer que non, vous allez potentiellement pas faire les JO, ou même pour les Américains, parce qu'on sait que c'est le seul truc qui les intéresse, en fait, ils ont rien à faire avec les championnats du monde, mais les JO, c'est important. Je vois quand même mal la NBA dire, ah bah non, en fait, on place la finale NBA à ce moment-là, sans parler du côté business et annonceur, où c'est suicidaire de faire ça. Enfin, il y a une raison pour laquelle personne ne se met sur le créneau des JO, en fait.
Et autre chose dont on n'a pas parlé, toujours un peu hors-terrain, tu vois, le calendrier de la NBA, là, il est un petit peu condensé. C'est-à-dire que là, c'est si tout va bien, en fait, si personne n'est recontaminé, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, si un joueur est contaminé, si, enfin, t'as un gars qui est blessé, qui doit sortir, aller, je sais pas, qui doit voir un spécialiste, est-ce qu'il peut revenir, enfin, tout ça, c'est les petits setbacks, en fait, qui peuvent arriver. Ben, comment la NBA va gérer ça? Parce que là, le calendrier, il est vraiment hyper serré, quoi.
Ah mais il est plus que serré, ça se chevauche. Dans le cadre idéal, comme tu dis, où tout se passe bien, il y a la draft qui est prévue 15 octobre, et là, je crois que si on va au bout de la saison avec des game sets, etc., ça finit genre le 10 octobre.
Le 12, oui.
Le game set des finales, quoi. Le 12, oui, voilà, le 12. Et donc, du coup, et derrière, t'as une free agency qui débute le 18. Enfin, c'est tellement serré que, comme tu dis, le moindre accro décale tout. Enfin, si tu décales d'une semaine, ça y est, ça va tout se chevaucher. Et effectivement, on va retrouver la question que tu soulevais, Ben. Donc, du format de la saison d'après, qui est la dernière question. À mon avis, ça planche très très fort là-dessus en ce moment. Mais d'avoir donc une astérisque ou un astérisque, je me pose toujours la question.
Une. J'ai vérifié. Je crois que c'est une.
Ça revient tous les 20 épisodes, ça.
C'est ça. D'un coup, j'ai eu un Gaulois moustachu qui est venu. Donc, un astérisque qui va se retrouver sur ce titre 2020-2021. Et si on doit changer de format, comme tu dis, Ben, même pas sur une saison type lockout, mais en mode très très court pour justement s'éviter les conflits avec les autres ligues et les JO. T'auras encore une astérisque sur la saison d'après également. Donc il y a des vraies questions à se poser, sans parler, comme tu disais, Tom, des imprévus qui vont aller avec, quoi.
Moi, je pense vraiment qu'ils vont être obligés de commencer le 1er décembre. Hein. Je vois pas comment décemment, parce que moi, ce que je retiens globalement, si je devais faire une conclusion de tout ça, ce que je retiens, c'est que la NBA, c'est une ligue des transitions, en fait. Qu'on chamboulerait absolument rien dans ce contexte, moi, ça me laisse quand même pantois. Donc, tu vas démarrer le 1er décembre, tu vas avoir une intersaison super courte, les Nets vont être favoris parce que du coup, Durant et Irving, enfin ça c'est mon petit, je place ça comme ça là, seront pas entamés du coup, et tu vas être obligé de faire ça en fait, parce que, alors, déjà, si tu vas contre les JO, enfin encore une fois, c'est du suicide, et tu vas faire ça jusqu'à quand en fait? Il y a un moment où ça va poser problème parce que t'as voulu ramener les Suns et les Wizards à Orlando chez Mickey. Donc au bout d'un moment, t'assumes les conséquences quand tu ramènes les Suns et les Wizards.
Après, on va se retrouver avec les problématiques, je te relance après Tom, mais les problématiques qu'on avait quand on débattait dans un précédent podcast sur la réforme de la NBA. Comme tu disais, c'est une ligue qui aime la tradition, les records sur 82 matchs, etc. Enfin, comparer les statistiques, et on va se retrouver avec ces mêmes problématiques pour se remettre dans les rails, entre guillemets, quoi.
Moi, je pense que la saison prochaine, ce serait un peu comme une saison lockout, quoi. C'est-à-dire que ça va démarrer plus tard. Je pense plus au niveau du 25 décembre, quoi, avec les matchs de Noël. Je pense que ça va redémarrer. Et on aurait une saison concise avec des matchs en moins, parce que clairement, tu pourras pas jouer 82 matchs. Tu auras, avec quelques matchs en moins pour finir dans le timing, parce que tu peux pas avoir deux intersaisons hyper courtes collées. Parce qu'après, la santé des joueurs, parce que les joueurs ont besoin de repos. Si en plus tu parles des JO et tout ça, si t'as deux intersaisons tronquées, les corps des joueurs peuvent pas se reposer. Et enfin, la saison prochaine, ça va être une saison majeure, hein, quand on voit que tout le gratin entre guillemets de la ligue est agent libre. Donc enfin, je pense que c'est vraiment une saison qui a beaucoup 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 d'enjeux la saison prochaine, hein. Et donc je pense pas qu'ils vont, je pense que la NBA va être assez précautionneuse avec ça, quoi. Et genre tout ce qui est back to back qu'ils avaient pu faire lors de la saison de lors du dernier lockout et tout ça, je pense que ce sera évité. Ils vont réduire des matchs, ils seront obligés de réduire des matchs.
En fait, moi, sans me faire le défenseur du grand capital, je me dis au bout d'un moment, je suis les annonceurs, ça va faire deux saisons que tu tronques. Si tu fais pas de back-to-back-to-back et que tu démarres aux alentours de 25 décembre, tu fais 45 matchs, hein, ou t'en fais 50, allez. Grand max, on va dire que t'en fais 50. Ça fait quand même, sur deux saisons, pour chaque équipe, en gros, t'as perdu quoi, une vingtaine de matchs multiplié par 30? C'est énorme, en fait, la perte sur deux ans. Tu rajoutes à ça les problèmes Hong Kong, etc. Bref. Je me dis qu'à un moment, même les annonceurs vont se dire vous nous saoulez pas, soit vous nous faites des back-to-back et les autres hérésies, soit on va plus loin, en fait. Enfin, pour moi, à la fin, c'est les joueurs risquent de tronquer, en fait.
Ouais, c'est pas faux, parce que tu partirais sur les bases, en fait, de la saison de 99, du premier lockout, lors de laquelle, justement, les équipes avaient joué une cinquantaine de matchs, et qui s'était soldé par un champion avec une astérisque à côté de son nom. Donc ça ferait deux titres qui seraient soi-disant pas comptabilisés par les fans, l'opinion publique. Mais c'est clair que les télés, en tout cas, les diffuseurs vont clairement râler si le nombre de matchs est trop fort. Fortement réduit. Moi, au contraire, je pense qu'ils vont essayer de condenser, quitte à prendre un certain risque au niveau des joueurs. Et je vois même, par exemple, des périodes d'accalmie du calendrier, comme la période post-All-Star Game, où je crois il y a un battement de 7 à 10 jours. Je crois que même cette période va être bazardée de manière à y caler des matchs.
C'est certain.
Vas-y.
Non, mais parce que on parlait des annonceurs, mais en tout cas, préparez-vous à payer encore plein pot le League Pass aussi, hein. C'est pas demain que ça va baisser, du coup, avec ces histoires.
Hein. On va passer par certaines astuces, hein.
Non, mais tu vois, globalement, tu vois, t'as parlé du titre de 99. Moi, j'entends personne dire que Tim Duncan, il a 4 titres et demi, hein. Personne ne dit ça.
Ah non, personne, mais par contre, beaucoup de gens te disent que les Spurs en 99... non, mais tu sais, c'est beaucoup à la tête du client. Tu sais, dévaloriser le titre d'un joueur, c'est en fonction de ce joueur. Tu sais, il y a des joueurs pour qui on attribue les éloges et les louanges beaucoup plus facilement qu'à d'autres. Donc...
Oula.
Ah non, mais bah, c'est un fait. Enfin... Crois-moi que un joueur comme Westbrook, LeBron ou Harden gagne le titre de Duncan en 99, c'est limite si les mecs ils vont pas te dire qu'ils ont gagné la Pro B, tu vois. Donc mais c'est vraiment à la tête du client, et étant donné que Duncan c'est pas quelqu'un qui est véritablement clivant sur l'aspect de sa personne, disons que soit tu l'aimes, soit t'es indifférent. Donc disons qu'il a pas véritablement beaucoup de haters, c'est autre chose. Par exemple, un mec comme Kobe, beaucoup de personnes vont te dire que ses trois premiers titres, ils sont dus à chaque.
Ouais. Après, pour moi, ça c'est de la question de polytechnicien de la NBA. En fait, je pense que la plupart des gens, sans être méchant, n'en ont absolument rien à faire.
Ouais, c'est de la fumisterie.
Juste une équipe avec un titre.
Ouais, c'est clair.
Clairement, le coup des astérisques, ce que je disais, je suis aussi de cet avis-là. On en parle entre nous, entre initiés de la NBA, et encore, on en parle pendant 3-4 ans, puis après, au final, comme tu dis, Tom, genre Duncan, il a 5 titres, quoi.
Le premier titre de l'Ebro, enfin le titre du hit saison logout, personne ne parle.
Personne n'en parle.
Ouais, mais parce qu'il y a quand même déjà une base de match plus importante, Ben. Ils avaient.
Oui, il y en a 66 quand même.
Voilà, ils reprennent à Noël, là où en en 99, ils avaient repris peu après la mi-février. Donc c'est pas quand même le même type de saison. Il y a quand même une base de match qui est beaucoup plus importante.
Mmh, totalement. Mais enfin, pour revenir au sujet de départ, c'est vrai que le fait qu'on soit en plus en année olympique, ça fausse tout, parce qu'on n'aurait pas été en année olympique. Même en année championnat du monde, la NBA s'en fichait. La NBA jouait jusqu'à l'année prochaine, jouait jusqu'à fin août et redémarrait. Et en fait, s'ajustait petit à petit. Mais là, tu peux pas, en fait, décemment.
Exactement.
Bah, on verra ça. C'est la question qui se posera. Je pense qu'on aura toute l'occasion d'en parler quand on va arriver à la preview de la saison 2020-2021. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce qu'il y avait à dire dans les grandes lignes, hein, évidemment. Je pense qu'on va y revenir dans les semaines qui arrivent forcément, puisque ça y est, on a de nouveau de l'actualité autour de la NBA. Est-ce que vous voulez ajouter quand même quelque chose sur ce format, les gars, ou vous pensez qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire?
Ah, moi, de mon côté, une petite Allez-y. Déception sur le fait de ne pas avoir adapté le format 1-16. Sachant que, comme on le disait tout à l'heure, ce sera pas du tout une saison comme une autre, autant faire des tests et d'être vraiment jusqu'au boutiste à l'absolu, de manière véritablement à pourquoi pas ensuite bifurquer vers quelque chose qui de toute façon est aujourd'hui un secret de polichinelle. C'est un format qui a été évoqué et pour lequel il y a eu certains pour parler, donc j'aurais bien aimé voir ça dans une saison qui de toute façon marquera l'histoire par son côté totalement décalé.
Moi, je reste persuadé qu'ils n'ont pas voulu... Je suis d'accord avec toi, et je pense que leur réflexion derrière, c'est de ne pas vouloir ajouter de la bizarrerie à la bizarrerie. C'est-à-dire, déjà, on est dans un contexte tellement particulier. Si on teste... Déjà, si on fait des tests... Enfin, je ne suis pas le scientifique de la bande, mais j'ai appris en cours de 5e que tu fais des tests dans des endroits, dans des conditions où tu peux les reproduire. Tu ne peux pas reproduire ce qui va se... Enfin, tu vois, si 1-16 marche, les gens vont te dire « Ouais, mais ça marche parce que vous jouiez chez Mickey, en fait. »
Non, mais Ben, de toute façon... Vu les idées qui ont été proposées, dès l'instant où on commence à te parler d'intégrer des effets sonores issus d'un jeu vidéo pour pouvoir remplacer le son du public, peux t'attendre à tout, en fait.
Les gars, moi, j'allais intervenir tout à l'heure. Quand on parlait du vide et tout, je commence à me dire que c'est limite pas une mauvaise idée. Hein.
Ah non, mais c'est sûr. Parce que tu regardes, par exemple, les retransmissions de matchs allemands. En plus, t'as l'impression qu'il y a un véritable DJ derrière tout ça. Dès l'instant qu'il y a une faute de sifflet sur un joueur qui joue à domicile, eh ben, ça commence à siffler. Si l'équipe adverse marque, forcément, ça commence à huer. Enfin, oui, il y a de l'idée. Et ça permet de rajouter un petit peu de normalité à cette espèce de situation totalement improbable. Mais à voir un petit peu le rendu sur un parquet NBA, parce que disons que il y a aussi la manière de filmer qui fait que dans une diffusion foot, tu peux quand même jouer sur la largeur du terrain, sur les effets de caméra, etc. Là, en basket, c'est beaucoup plus condensé, et ne pas avoir de caméra braquée sur une salle totalement vide, ça va être compliqué. Parce que là, sinon, va falloir commencer à faire de l'hologramme, et ça, pour ça, faut s'adresser à Mélenchon.
Des hologrammes de photographes sous les panneaux, un Spike Lee en hologramme sur le côté aussi.
Mais ça va quand même, tu vois, permettre, par rapport aux angles caméra, comme tu dis, ça va quand même permettre, en fait, de tester peut-être des nouveaux angles, là où normalement t'aurais eu du public ou des places occupées, mais tu aurais pu avoir une caméra, par exemple, quelque part dans les tribunes, ouais.
On va avoir que des gros plans.
Les gros plans avec le son wired en permanence.
Ah ouais, le inside tracks.
Exactement. Bah voilà, bah on verra bien, en tout cas.
Et si
voilà.
Je peux me permettre.
Vas-y, Ben.
Juste un truc. Alors moi, c'est un de mes chevals de bataille.
Attention.
Je trouve ça incroyable, en fait. La saison NBA, on sait, il y a des articles de The Athletic qui sont sortis. On sait qu'en gros, Walt Disney, si on joue à Disney, c'est qu'aussi un peu Disney a agité la pancarte, a dit, les gars, on peut jouer chez nous. Ce qui est intéressant, hein. Mais quand tu sais que Disney a ESPN dans son giron, qu'ESPN perdait 500 millions si la saison NBA ne jouait pas, moi, ça me pose des grosses questions. Tu vois, par exemple, si ce qui se passe à Orlando, ça s'avère être complètement catastrophique. Alors, je vais pas partir dans la théorie des médias de ce qui peut se passer en France, hashtag Bolloré, hashtag Xavier Niel, hashtag Bernard Arnault, hashtag Dassault, mais est-ce qu'un journaliste d'ESPN, il va dire « Non, mais en fait, les gars, c'est pourri. » Alors qu'en fait, il joue chez son patron, en fait. Mm. Tu vois le truc aussi. Enfin, moi, ça me pose des grosses questions, en fait. Il y a des contentieux qui sont énormes dans cette affaire. Je trouve ça incroyable que personne n'en parle, en fait. On joue quand même chez ESPN. On joue chez Disney pour un produit qui va être diffusé sur Disney parce que ABC appartient aussi à Disney. Enfin, c'est Fox incroyable. Aussi, même.
Ah bah ils vont forcément tenter de nous le survendre comme pas possible. Ça c'est une évidence.
En plus que on sait que le parc va ouvrir mi-juillet, donc on sait qu'il y aura pas de contact entre joueurs, heureusement, joueurs et gens qui vont voilà qui ont profité des attractions. Mais même tu vois le coup de pub pour Disney, il est incroyable. Enfin, moi je trouve l'équipe marketing de Disney. Ce sont les vrais génies de ce coronavirus. Parce que, alors, eux, ils ont tout trouvé. Enfin, franchement, ils sont trop forts.
Et puis, ça fait un moment qu'ils mangent un peu, beaucoup de monde, Disney. On les voit un peu partout.
Ah bah,
ils ont pas encore attaqué la K-pop, mais.
Racheter Star Wars, ça leur a pas suffi. Hein. Là, ils veulent tout. Hein.
Exactement. Mais pour l'instant, ils n'ont pas Dunkebdo. Et ça va être le principal. Nous sommes indépendants. Et donc,
on va y rester pendant. Ah,
ouais. On devrait être tranquille, exactement. Ilias, toi, t'avais peut-être aussi un truc à ajouter, je sais pas, on t'a pas entendu.
Non, bah écoute, non, comme je t'ai dit, juste ce format 1-16 qui m'aurait pas dérangé. Ouais. Il m'aurait pas forcément plu, mais pas dérangé, mais voilà. Donc, wait and see, on va regarder ça. En tout cas, on a beau analyser et tergiverser autant qu'on le voudra, on sera tous présents devant nos écrans quand ça reprendra. Ça, c'est une certitude.
Exact, on sera devant nos écrans, derrière nos micros aussi également. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à commenter quand ça va se préciser au fur et à mesure qu'on ait des infos sur la reprise des joueurs. On l'espère pas, mais peut-être d'autres contaminations. Donc bon, en tout cas, on va voir ça. On reste quand même un peu hypé. Enfin, en tout cas, moi perso, j'ai hâte de voir au moins les premiers matchs, de retrouver un peu de basket, d'avoir une raison pour justifier mon décalage de rythme de vie. parce que c'est aussi ça, parce que là, ça n'a aucun sens de se coucher à 5 ou 6 heures du matin alors qu'il n'y a rien à regarder. Enfin bref, on va retrouver ça bientôt. Comme d'habitude, évidemment, n'hésitez pas à réagir avec nous à cette reprise de la NBA sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, à nous écouter bien sûr de Kebdo, toujours présent sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, toutes vos plateformes préférées.
Adrien fait ta pub là quand même. Enfin, je trouve ça. Adrien doit faire sa pub.
J'allais d'abord faire la pub de Pierre. Je vais le refaire une fois quand même parce que je trouve que le Up and Thunder mérite. Avec donc Eric Horn de The Athletic mérite une dernière fois. C'est la dernière fois que je fais sa pub, mais ce sera deux fois. C'est bien mérité, je pense.
Il faut la faire en anglais.
On est fiers de Coach Pierre. Exactement. C'est un podcast en anglais. Et moi, oui, bon, bah, j'ai lancé avec quelques copains à côté un podcast autour du jeu vidéo. Donc voilà, c'est un sujet qui n'a rien à voir. C'est mon ancienne carrière professionnelle. C'est une autre passion. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle Sauvegarde, on mange, comme une phrase qu'on entend souvent quand on jouait aux jeux vidéo quand on était plus petit. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça également, qui est disponible aussi sur tous les réseaux sociaux et qui est sur Spotify. Donc voilà, merci pour l'autorisation de publicité, Ben. Et puis, évidemment, on se donne comme d'habitude rendez-vous très vite la semaine prochaine pour un prochain épisode de Duck Hebdo pour continuer à parler de NBA, bien sûr. Merci beaucoup, les gars.
Merci à toi.
C'était un plaisir.
Et bonne semaine à tous.
Salut.